Bonjour Amélia Feuilleur.
Bonjour.
Vous êtes là à la Maison des Arts de Rovetli, à côté du Victoria Hall. On va en parler plus tard. C'est pour parler d'un festival dont vous avez eu l'idée. Vous êtes à la fois cantatrice et aussi la co-directrice de ce festival, la co-fondatrice. C'est un festival consacré aux musiciennes, aux compositrices oubliées. D'ailleurs, le Victoria Hall, il y a des noms de compositeurs, de musiciens, aucun nom de femme. Donc, c'était réparer une injustice.
Oui, exactement. Nous, on veut mettre en avant les compositrices du passé, mais aussi les compositrices d'aujourd'hui, pour que ça n'arrive plus dans notre génération, déjà. Et effectivement, on a la chance de commencer notre festival avec un mapping, où on projette les noms des compositrices sur le Victoria Hall, où, donc, pour l'instant, il n'y a que des hommes.
Je précise juste que le mapping, c'est Sophie Lemayour qu'on a déjà rencontrée. Ce sera le 13 septembre. Et elle nous a expliqué comment elle avait pensé ce travail avec vous.
Exactement. Donc, en fait, à la base, c'est drôle. Je suis venue à la ville de Genève, spécifiquement l'agenda 21, qui est en charge de l'égalité dans la ville. Et j'avais l'idée qu'on pourrait peut-être graver dans la pierre les noms des compositrices sur le Victoria Hall. Ils ont trouvé ça mignon. Je pense qu'on est...
Mais pas possible.
Peut-être si je travaille sur ça toute ma vie, à la fin de ma vie, je pourrais voir ça.
Vos enfants, vos petits-enfants, voilà, votre petite fille peut-être.
Mais après, ils ont revenu vers moi et ils ont dit pour la journée européenne de patrimoine et matrimoine, peut-être on peut au moins commencer par projeter les noms des compositrices sur le Victoria Hall.
Bonjour Amélia Feuilleur.
Bonjour.
Vous êtes là à la Maison des Arts de Rovetli, à côté du Victoria Hall. On va en parler plus tard. C'est pour parler d'un festival dont vous avez eu l'idée. Vous êtes à la fois cantatrice et aussi la co-directrice de ce festival, la co-fondatrice. C'est un festival consacré aux musiciennes, aux compositrices oubliées. D'ailleurs, le Victoria Hall, il y a des noms de compositeurs, de musiciens, aucun nom de femme. Donc, c'était réparer une injustice.
Oui, exactement. Nous, on veut mettre en avant les compositrices du passé, mais aussi les compositrices d'aujourd'hui, pour que ça n'arrive plus dans notre génération, déjà. Et effectivement, on a la chance de commencer notre festival avec un mapping, où on projette les noms des compositrices sur le Victoria Hall, où, donc, pour l'instant, il n'y a que des hommes.
Je précise juste que le mapping, c'est Sophie Lemayour qu'on a déjà rencontrée. Ce sera le 13 septembre. Et elle nous a expliqué comment elle avait pensé ce travail avec vous.
Exactement. Donc, en fait, à la base, c'est drôle. Je suis venue à la ville de Genève, spécifiquement l'agenda 21, qui est en charge d'égalité dans la ville. Et j'avais l'idée qu'on pourrait peut-être graver dans la pierre les noms des compositrices sur le Victoria Hall. Ils ont trouvé ça mignon. Je pense qu'on est...
Mais pas possible.
Peut-être si je travaille sur ça toute ma vie, à la fin de ma vie, je pourrais voir ça. Peut-être.
Vos enfants, vos petits-enfants, voilà, votre petite fille peut-être.
Mais après, ils ont revenu vers moi et ils ont dit pour la journée européenne de patrimoine et matrimoine, peut-être on peut au moins commencer par projeter les noms des compositrices sur le Victoria Hall. Et à la base, c'était censé juste être une simple projection. Mais je me suis mis en contact avec Sophie Lemayour et les synergies entre artistes a commencé à développer. Et maintenant, on a un vrai spectacle à offrir. Oui. Pour le 13. Et en fait, ce spectacle commence avec une phrase qui était dite par Clara Schumann qui dit « Pourquoi j'aurais prétendre d'être capable de composer parce qu'aucune femme avant moi l'avait fait ?» Sauf qu'elle avait tort parce que plein de femmes ont composé avant elle, dont la première Hildegard von Bingen qui disait...
Qui faisait d'autres choses d'ailleurs aussi.
Plein de choses, cette femme était incroyable.
Herboriste.
Oh my god, oui, médecine, voilà, écrivaine, elle faisait tout. Et du coup, ce qui est expliqué dans le livre d'Aliette Lalleux, qui travaille à France Musique...
Qui sera présente.
Pas pour le mapping, mais peut-être dans d'autres moments du festival, parce qu'elle est marraine du festival. Et ce qu'elle explique dans son livre, si Mozart était une femme, c'est que systématiquement, chaque fois qu'il y avait une compositrice qui existait et d'un coup, elle a décidé, elle n'était plus en train de travailler, on avait le chic de assez rapidement effacer son travail. Parce que souvent la famille ne soutenait pas son nom et son travail après son décès, ou... les maisons d'édition ne voulaient pas continuer de publier ses œuvres, plein de raisons différentes. Et ça faisait sorte que quand tu as une nouvelle génération de compositrices, ils n'ont pas des modèles.
Mmh. Ouais. Des modèles. Mais aussi, en effaçant, Amélia, vous dites, en effaçant l'œuvre, on efface la personne.
Mais absolument, absolument. Et oui, les deux vont ensemble et on voit pas ça seulement dans la musique, mais dans l'art, les peintres, des écrivains et tout. Donc c'est un peu un problème partout. Hein.
À propos de musique, puisqu'il y aura ce mapping de Sophie Lemayo, il y a la musique de votre complice, Frankhauser.
Oui, Céline Frankhauser. On avait vraiment la chance de tomber sur elle. En fait, on avait un projet parce que ce festival à la base existait aussi à Paris. Et on avait la chance de faire une résidence l'été dernier. Et le projet dans cette résidence, c'était de créer de la musique pour les films d'Alice Guy, qui était une réalisatrice aussi oubliée, effacée, qui était juste la première personne, laisse tomber la première femme, d'avoir l'idée que le cinéma pourrait être le septième art. Et pas juste une manière d'observer la vie, mais de vraiment créer une histoire et des personnages. Et c'était elle qui avait donné la première directive même aux acteurs. Elle disait à des acteurs, sois naturel, be natural. Et du coup, c'était la première fois qu'on avait dit, peut-être un acteur n'est pas juste fait pour la scène, mais il y a une autre manière de faire ça.
La précurseuse des studio acting.
Oui, exactement, exactement. C'est ça. Et donc, du coup, on avait ce projet avec aussi en lien avec la Cinémathèque française qu'une compositrice d'aujourd'hui revisite les films d'Alice Guy et compose la musique pour ses films. Et donc, du coup, on a tombé sur Céline Frankhauser qui est originaire de Berne.
Et, qui fait des musiques de films.
Qui fait des musiques de films qui elle a tellement de talent, elle n'a même pas 30 ans encore. Et elle avait adoré l'opportunité aussi d'aller en France, de faire un échange de culture entre la Suisse et la France. Et du coup, elle a fait ce musique pour nous. Et donc, du coup, elle a aussi généreusement donné de son temps et son énergie pour faire la musique pour ce mapping.
Alors, Amélia, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Elle a tout juste 30 ans. Sophie Lemayo aussi. Vous aussi, vous êtes trentenaire. C'est un bon cru cette année, cette génération.
Oui, je ne sais pas. Je suis grandie dans une époque encore où on disait à des femmes qu'on pourrait tout faire, sauf que ce n'était pas une époque où on avait vraiment le droit de tout faire. Et je pense que, je ne sais pas pour les autres, mais au moins ça m'a mise un peu en colère que je voyais que le monde n'était pas encore juste, même si on m'avait donné l'idée que c'était le cas. Et donc, du coup, sans être révolutionnaire non plus, mais je pense chacun dans nos manières, nous les femmes trentenaires, on essaie de dans une manière positive, changer des choses. Donc voilà, oui, c'est maintenant ou jamais. Et maintenant j'ai une petite fille, elle a 2 ans et demi.
Congratulations.
Merci. Et je ne veux pas qu'elle grandisse dans le monde dont j'ai grandi. Je veux qu'elle a pour du vrai des opportunités et des modèles, des femmes qui sont bienveillantes vers les autres femmes.
On pense aux féministes des 70s, des années 70, qui ont beaucoup obtenu, qui se sont battues pour l'obtenir.
Bien sûr.
Déjà, il y a des acquis, mais il n'y a pas que les acquis, il y a encore beaucoup à faire.
C'est ça, et je pense qu'on vit avec une génération au-dessous de nous où il y a encore beaucoup des hommes en pouvoir. Et il faut juste qu'on attend que ça passe à la prochaine génération. Gentiment.
Ben justement, c'est peut-être pour ça que toutes ces compositrices, ces musiciennes sont passées aux oubliettes à travers l'histoire. C'était le patriarcat dominant.
Mais bien sûr, et si on voit dans les maisons d'opéra aujourd'hui, pour la plupart, c'est encore des hommes d'un certain âge qui font la programmation, qui décident qui va être écouté. En même temps, je comprends qu'eux ne veulent pas forcément prendre des risques parce qu'il faut mettre des gens, il faut vendre des places. Et je n'imagine même pas ce que c'est, la pression d'avoir cette responsabilité. Et du coup, pourquoi les inoubliables existent, c'est d'être dans la médiation et créer un engouement pour cette musique, pour qu'après, des grandes maisons d'opéra peuvent voir que nous, on remplit des salles et du coup, et peut aussi commencer à proposer un même genre de programmation.
Qu'il y a des attentes du public qui est au rendez-vous.
Voilà, c'est ça. Mmh. On va voir.
Alors, les Inoubliables, ça va se dérouler du 1er au 16 octobre.
À 19 maintenant. On a une dernière date qui vient d'ajouter. Donc, ça vient d'être mise dans le programme.
Voilà. Donc, c'est en bonne voie, vous obtenez toujours un peu plus. C'est en bonne voie pour inscrire les noms, vraiment les graver dans le mur. À mon avis, ça va aboutir, ce projet.
J'espère vraiment. En tous les cas, on fait ça dans une manière inclusive, bienveillante. Et on espère juste amener plus de beauté dans le monde et donner plus de chance pour celui qui commence maintenant à composer et donner enfin une chance à des compositrices du passé de rayonner.
Et surtout de rendre hommage à ces femmes qui ont fait des œuvres magnifiques, composées ou qui les ont chantées et qui n'ont pas été retenues par la postérité.
C'est ça. Et je pense que ce qu'il faut qu'on mette dans nos têtes, c'est qu'il y a assez de place pour tout le monde. Que Mozart et Beethoven peuvent continuer à exister, même si Mel Bonis et Pauline Viardot aussi est beaucoup plus jouée qu'avant. Il y a la place pour tout le monde.
Et à propos de ces compositrices que vous mentionnez, vous avez un parcours, on connaît légèrement, il y a quelques points qu'on connaît sur Internet, mais pas grand-chose. J'ai vu quand même que vous avez chanté déjà l'opéra, que vous vouliez rendre accessible à tout le monde, dans les rues de New York, pendant vos études. Is it true?
C'était dans les rues de Genève, en fait, dans les rues basses.
It was not Big Apple.
Non, peut-être un petit peu, mais en fait, j'ai vraiment commencé à chanter dans la rue à Genève quand j'ai fait mon master's à la Haute École de Musique. Parce que ce qui est vraiment chouette à Genève, c'est que tout le monde a le droit de faire de la musique dans les rues basses. Il faut juste demander un petit permis et c'est partie de la culture de cette ville. Et donc, du coup, j'ai fait ça un peu pour le fun au début. Et après, je me suis rendu compte qu'aussi, ça rémunérait très bien. Par la suite, j'étais sur une émission, La Puce à l'Oreille, qui
est
RTS. J'étais aussi dans les tribunes de Genève à l'époque. Du coup, c'était une bonne expérience parce que ça m'a permis de comprendre que la musique classique, que le chant, ça touche plein du monde. Juste parce qu'ils n'achètent pas des billets pour une maison d'opéra, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas écouter ça. Et j'ai fait aussi plein de beaux rencontres. Par exemple, j'ai rencontré Seal, le chanteur Seal.
Et notre chanteur Stéphane Aicher.
Stéphane Aicher, voilà. Et plein de personnes comme ça. Donc, je trouve ça vraiment chouette que vraiment, les musiciens, on est là pour échanger. On n'est pas juste là pour rester dans nos coins.
Et puis, la démarche d'aller vers le public, un public qui n'est pas forcément... forcément concerné, qui ne sait pas s'il aime ce genre, c'est aussi d'aller vers ce public et peut-être susciter de nouvelles passions chez certaines personnes.
Oui, ou même juste rendre la journée un petit peu mieux. En fait, ce que j'aime de chanter dans la rue, c'est que tu imposes rien. Si les gens veulent écouter, ils écoutent, s'ils ne veulent pas, ils partent. Et c'est pas grave. Et il y a plein de belles surprises.
Et à propos du site Amelia Feuer, on voit que vous faites partie du trio Lucia. Vous pouvez nous en parler?
Oui, en fait, j'ai aussi créé deux ensembles, le duo Circe, avec moi et un pianiste, Clémentine Dubost. Et nous, on va jouer le 12 septembre, juste avant le mapping sur Victoria Hall, dans une conférence à Palais Inard, autour de les journées européennes de matrimoine patrimoine, mais dans ce cas, c'est
matrimoine,
parce que c'est vraiment cette conférence autour de la matrimoine de la ville de Genève. Et on va aussi jouer à la fin du festival le 19. Et le trio Lucia, on va jouer à juillet le 16 à la bibliothèque de Genève.
Bibliothèque de la cité?
Pas bibliothèque de la cité, la bibliothèque de Genève. En fait, dans ce bâtiment, au 12e étage, quoi. Au premier étage.
Dans la maison des arts du Brutley?
Dans la bibliothèque.
Ah oui, dans la bibliothèque. Ouais.
Et il fait 4 concerts par saison. Donc, on fait une coproduction avec eux. Et oui, ces deux ensembles sont chouettes parce que, évidemment, on met en avant les compositrices et on explore plein de répertoires. Et ça m'a permis, en tant qu'artiste, de faire mon travail, d'aller dans les archives, d'aller vers d'autres publics. Et pas juste être une simple, entre guillemets, programmatrice, mais vraiment être sur le terrain. Voilà.
Amelia, vous avez une formation de chant lyrique, dramatique plutôt.
Je suis dramatique.
Yes, indeed. Et en même temps, là, vous, avec le duo, il me semble, vous allez dans les répertoires de jazz, du théâtre un petit peu des années 40 à 60.
Oui,
Comédie musicale aussi.
Avec les deux, avec Douce Circe, on a resté sur un répertoire pour l'instant qui entre les Allemands romantiques. On adore Alma Mahler, Clara Schumann. Après, on a joué beaucoup de Florence Price, qui était la première compositrice femme noire d'avoir sa musique jouée par un grand orchestre aux États-Unis dans les années 30. Et voilà, on est plutôt dans ce répertoire-là pour l'instant. On concentre sur les Allemands et les Américaines, je ne sais pas pourquoi. Et avec Trio Lucia, vu que c'est une formation de harpe, violoncelle et chant, c'est un peu différent à la base et on est obligé de réarranger toute la musique. Du coup, on a décidé d'explorer un peu de la jazz. Et du coup, on a une de nos compositrices phares, elle s'appelle Blossom Deary. C'était une Américaine qui vivait à Paris dans les années 50 et 60 et elle a écrivé de la musique sublime quand enfin on commence à rejouer. Mais ça devrait être à côté du même standard de jazz de Miles Davis et compagnie et ce n'est pas le cas. Donc on était vraiment contents d'explorer ce répertoire.
Et par rapport à ces compositrices comme celles que vous venez de mentionner, vous allez dans les bibliothèques de musique. Comment vous les avez trouvées puisqu'elles étaient enfouies dans les oubliettes?
Oui, en fait, heureusement, il y avait des gens avant que moi j'ai commencé ce travail qui a déjà enregistré des œuvres. Souvent, c'était des amateurs et je trouvais ça intéressant qu'ils ont exploré ce répertoire. Mais nous, on a rendu compte qu'il fallait le professionnaliser un petit peu parce que même si les amateurs font ça avec tout leur cœur et c'est génial, des fois on a besoin juste après que ça soit reprise un peu plus proprement par des musiciens pros. Du coup, j'avais la chance de découvrir plein de choses par des gens passionnés. Et après, oui, c'est une question d'aller dans les archives, mais souvent, c'est de parler avec les bibliothécaires. Par exemple, à la Haute École de Musique, il y a la bibliothèque, et le directeur, c'est Monsieur Jack Chamcarton. Qui est venu, quand je suis venue vers lui pour demander qu'est-ce que c'était dans les archives, il avait dit, il y a la compositrice Fernande Perrault, qui est une compositrice genevoise, dont j'ai reçu toutes ses œuvres quand j'étais une jeune bibliothécaire au début des années 80. Et c'était à moi de l'archiver, ses œuvres. Et depuis, personne ne les a touchées. Est-ce que tu veux les voir? Et j'étais en mode, ouais! Et c'était tout sublime. Du coup, souvent, en fait, on a des gens qui sont déjà au courant de tout ce qui est là. Mais il faut juste poser des questions à les bonnes personnes.
Donc, pour ce festival, il y a aussi les bonnes rencontres.
J'ai la chance vraiment à Genève de tomber sur des personnes adorables. On a pu découvrir Fernand Perrault grâce à M. Chamcarton, mais aussi par la suite, on voulait les rééditer parce que beaucoup de ses œuvres sont écrites sur du papier calque en manuscrit et il faut faire enfin une
digitaliser.
Vrai travail. Et du coup, on a rencontré une super maison d'édition, une jeune maison d'édition qui s'appelle Henri Labatia, portée par Grégoire May. Et lui est hyper content de travailler avec nous. On a tombé sur l'équipe de le Musée d'Art Histoire qui soutient notre projet, l'équipe de Les Salons qui est juste à côté, qui porte le projet. Plein de personnes, faut pas que j'oublie qui d'autre on est en train de travailler avec. Mais Bibliothèque de la Cité, la Bibliothèque de la Ville, vraiment on Agenda 21, on n'a que de engouement pour ce projet, ça nous touche.
Oui, donc ça suscite beaucoup de, à la fois stimulation, une symbiose comme ça, donc il y a un intérêt comme généralisé. Ce projet de festival est bienvenu, il était peut-être attendu aussi.
Peut-être. Il faut trouver l'équilibre entre respecter les institutions qui sont déjà là, qui savent faire bien leur travail, et de proposer quelque chose de nouveau en rentrant quand même dans les codes d'où on est, parce que je sais, j'ai un accent, je ne suis pas suisse à la base.
But you speak perfectly French. Molière would be very proud.
Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais gommé mon accent, mais... Du coup, je ne viens pas ici pour apprendre des choses à des personnes. C'est un échange, voilà. En essayant de m'intégrer dans ce culture dont j'adore et ajouter une énergie qui existe déjà et qui est déjà très beau.
À propos d'accent, vous avez appris le français déjà aux États-Unis ou seulement à Paris?
Non, en fait, j'ai fait une Erasmus au CNSM de Paris quand j'avais 22 ans. Et j'ai rendu compte que je voulais rester en Europe en France à l'époque, parce qu'à 22 ans, on voit le pain, le fromage, les hommes français.
La baguette. Ah bah les hommes, voilà. C'est dit, hein.
Le vin. Ouais, c'est dit. Les hommes français, c'est difficile de les résister. Et du coup...
les Suisses, c'est plus facile, hein.
Bah, je ne sais pas, en fait. Du coup... je voulais rester et par un hasard total, je me suis trouvée à Grenoble. Et à Grenoble, à l'époque, il fallait juste parler français et rapidement. Donc j'avais la chance d'être dans une petite ville dans les Alpes.
Provincial
pour vraiment améliorer mon français. Et après ça, je suis allée à Genève pour mon master's, donc ça un peu ça
aide. Donc vous n'avez pas pris l'accent de l'Isère. Et à propos d'accent, même si vous n'avez pas perdu le vôtre, rappelez-vous que Jane Birkin, même après 60 ans en France, elle forçait même son accent because it was very charming.
Oui, mais bon, elle était anglaise, je suis américaine et j'essaie de cacher ça en ce moment, donc même si à New York, on n'est pas tout à fait des Américains.
Non, comme San Francisco, c'est voilà, différent. C'est je ne vous ai pas posé la question sur les États-Unis. Ça me démange, mais je ne le dis pas.
Oui, de toute façon...
Pour les artistes,
c'est
compliqué.
Je ne peux même pas croire, j'arrive même pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Et je pense que je suis juste très reconnaissante d'être en Europe. Et j'espère qu'en Europe, on va continuer de... on va pas évoluer comme les États-Unis.
Voilà, je suis pas sûre que ça soit une évolution, mais je pensais par exemple aux grandes universités qui sont muselées, qui sont bloquées par le gouvernement actuel. Et je me demandais si c'était le cas pour les artistes. Est-ce que les artistes sont aussi bloqués? Est-ce qu'ils ont moins de soutien financier?
Je sais que les compagnies qui portent certains sujets qui vont contre le gouvernement actuel, ils ont perdu leur financement. Ça, je sais. J'ai pas des amis en particulier qui étaient touchés, mais j'ai aussi beaucoup moins des amis musiciens aux États-Unis parce qu'à la base, c'est beaucoup plus dur de faire ton art aux États-Unis que dans un pays, par exemple en France, il y a le statut d'intermittent du spectacle. Même en Suisse, il y a plein d'opportunités pour jouer. Et,
en Italie, il y a toute une tradition.
Voilà. Mm. Et aux États-Unis, la plupart de mes amis, même qui réussissent à un haut niveau, de temps en temps, ils doivent travailler dans un restaurant. Du coup, j'ai vraiment la chance, je trouve que vois que je peux que. Je fais que mon art et je dirige les universités. Et je suis reconnaissante, très reconnaissante.
À propos d'art, j'ai lu sur votre site, à propos de, je crois que c'est du duo, il me semble, vous dites major to minor. Vous pouvez m'expliquer?
Major to minor.
Minor. Why?
Oui, c'est un petit duo que j'ai avec une copain pianiste. En fait, on est très...
Armin.
Et on est très fan de Cole Porter. Et il y a une chanson, Every Time We Say Goodbye, et il y a une phrase là-dedans. But how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Et du coup, on a trouvé ça beau, cette phrase. Du coup, notre duo, c'est from major to minor.
Rien qu'en vous entendant chanter cet extrait, j'ai les frissons. On va finir l'interview avec un extrait plus important, je crois. Pour revenir au festival, donc le mapping, grâce à Sophie, le 13. Après, vous enchaînez fin du mois. Jusqu'au 19, maintenant, vous m'avez dit.
Oui.
Est-ce qu'il y a des personnes que vous voulez mentionner, que ce soit des compositrices qui sont remises à l'avant, ou est-ce que des invités qui vous sont chers? J'imagine
oui.
Tout le monde, mais...
Tout le monde est cher. On a vraiment la chance de travailler avec le grand pianiste David Kadouche, qui avait le chic de, depuis longtemps, mettre en avant les compositrices, même s'il n'avait pas forcément besoin de le faire, parce qu'il a une grande carrière toute seule, et la plupart des pianistes que j'avais approchés, que j'avais abordé pour faire une phrase. Non, mais la plupart des pianistes qu'on a abordés, qui sont des pianistes un peu stars, ils avaient dit à nous pourquoi j'apprendrais une répertoire des compositrices, parce que je vais que le jouer pendant votre festival et après je vais jamais le rejouer, et le temps de monter un programme à ce niveau-là.
C'est beaucoup d'investissement.
Voilà. Ou David, il avait fait ça tout seul. Et du coup, il fait énormément de communication aussi sur les réseaux sociaux, sur les compositrices. Et je trouve le plus beau, c'est tellement beau pour moi de voir un allié
de voir un homme allié pour ce genre
qui soutient
de voilà
de projet.
Ouais, et de, de quelqu'un qui est curieux, qui n'est pas une femme par ce répertoire. Du coup, on a hâte de lui accueillir le premier week-end d'octobre au Musée d'Art Histoire. Et juste avant son concert, c'est génial, on a un mini concert des étudiants de la Haute École de Musique qui va jouer la musique de Fernand Perrault. Et pour ouvrir ce concert, on invite l'architecte Fanny Noël qui vient de gagner le mandat pour refaire le Musée d'Art Histoire. Donc, pour montrer que les femmes dans plein des différents milieux, on s'entraide et on se soutient.
Les modes artistiques d'expression très différentes se croisent, se rencontrent.
C'est ça, et de voir que nous, les femmes, on est l'avenir.
Bah, disons que sans les femmes, il n'y avait pas déjà de passé. Hein.
Ça, c'est sûr.
Mais le patriarcat l'avait oublié.
Voilà.
Pour revenir aussi aux invités, vous avez parlé tout à l'heure de l'autrice de Si Mozart était une femme.
Ah, Aliette Lalleux.
Oui.
Oui, oui, oui. Du coup, elle va peut-être essayer de venir. Elle est très, très occupée avec, avec France Musique, mais elle va essayer de venir un petit peu. On a aussi le 12e week-end, on va refaire le ciné-concert d'Alice Guy avec la musique de Céline Fankhauser au salon, du coup, plein de centres de Genève. Et on va faire une petite conférence juste avant avec Coraline Refort, qui est la première femme qui a un doctorat sur Alice Guy en France, ou dans les pays francophones. Du coup, elle va venir un peu introduire qui est Alice Guy pour ceux qui sont intéressés de venir juste avant. On a aussi ce week-end-là Manon Mouliner, qui est une étoile grimpante en jazz en Suisse. On a un spectacle jeune public, auteur des compositrices, qui est très rare, qui était d'ailleurs partie d'une résidence chez Les Inoubliables. On a commandé ce spectacle jeune public. Donc non, il n'y a que des beaux spectacles et plein de spectacles qui varient, même si on concentre sur la musique classique et jazz parce qu'on laisse les créatives faire leur partie aussi, on ne veut pas marcher sur le pied. On propose quand même des spectacles inédits grand public.
Et la cadence du festival, puisque c'est la première édition, vous espérez pouvoir le réitérer chaque année?
Oui, on est en train de poser des questions de comment on va faire, si ça se fait chaque année pendant le mois d'octobre, si ça se fait un peu toute l'année, si on fait vraiment une saison. Là, la prochaine étape, on va faire une gala-concert en mars à Victoria Hall. Donc vraiment un grand concert avec un grand orchestre, avec plusieurs stars, mais je ne peux pas annoncer encore, mais ça va être assez incroyable. On pense aussi de faire une série de vidéos où chaque vidéo de 3 minutes, on met en avant soit une compositrice, soit de passé, soit de présent. Et on fait une série de vidéos pour toucher un plus grand public. On veut aussi faire un week-end de jazz, pur et dur, des compositrices de jazz. Donc, on est sur l'expérimentation pour l'instant. Mais le but, c'est que Les Inoubliables restent toute l'année.
Cross fingers.
Yeah.
Wish you luck. Et quand vous parlez de pianistes, je pense aux Athénéennes.
Ouais.
Il y a des pianistes comme Jean-Marc Luzida qui pourraient être intéressés parce que lui, il est très ouvert.
Ouais.
Il avait fait, n'est-ce pas, un concert lié à tout ce qui était musique de film, ce qui était nourri par le cinéma. Et il est aussi sensible à la cause des femmes.
Bah, il faut absolument que je parle avec eux, mais j'adore l'équipe des Athénéennes et je connais très bien Audrey, donc avec grand plaisir. Et c'est comme ça qu'on est plus fort, de s'entraider et de trouver des collaborations riches.
Et vous allez chanter durant les journées du matrimoine?
Oui, du coup, je vais chanter le 12 pendant cette conférence autour de matrimoine et l'architecture à Genève.
Avec quel répertoire?
Du coup, on va chanter Alma Mahler et Clara Schumann. Après, je vais chanter avec mon trio, le trio Lucia, le 16 octobre à la Bibliothèque de Genève. Et pour clôturer le programme, je vais rechanter avec le duo Circe le 19 octobre à Roussin, qui est juste à côté de Genève.
Où il y a des vins.
Oui.
Ils ne sont pas français, mais il y a des vins.
Il y a des vins. Et ça va être, en fait, oui, un concert à la fin. On propose des vins. Et c'est avec une petite association qui s'appelle The Low Light Sessions, qui fait plein de concerts chez des particuliers à Genève. Et ils voulaient absolument travailler avec nous. Du coup, ils ont ajouté cette date et on était très contents. Donc, voilà. Si des gens veulent m'entendre, m'écouter, ça c'est mes dates.
Dans leur maison.
Oh, et je vais aussi chanter pendant le ciné-concert. Parce que le ciné-concert, c'est 30 minutes de musique d'orchestre et après 15 minutes de musique piano et chant. Voilà.
Amélia, en tout cas, c'est un programme vraiment intense et diversifié. on sait que si on veut venir vous faire chanter chez nous, dans le grand château qu'on a à Coligny, vous pouvez venir. Voilà. Par contre, est-ce que vous étiez à Stockholm il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Vous avez sans doute des projets déjà en cours après le festival.
Oui, en fait, j'avais énormément de travail cet été. Ça se calme en novembre et décembre parce que j'avais ce festival et je voulais concentrer dessus. Mais oui, cet été, j'ai chanté dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel en Normandie. J'avais une série de concerts à Stockholm. Je vais normalement rechanter à Stockholm en novembre.
À l'Opéra de Stockholm.
Non, c'est pas l'opéra, je me rappelais pas le nom du salle, mais on fait le Requiem de Verdi. Après, j'ai des concerts à Paris, je vais chanter le Requiem de Mozart en septembre. Et après, normalement, il y a plein de choses qui arrivent en 2026, mais rien n'est signé, du coup, je parle pas encore.
Non, non, non. Vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport au festival ou par rapport à votre parcours? Avant qu'on se quitte,
la pression.
Non, vous avez l'air toute zen.
Ah oui.
Ah oui, complètement feng shui. On voit pas le stress. Hein. Et vous êtes lumineuse, donc on voit pas du tout le travail qui a été fait en amont. On l'entend, mais on le voit pas.
Je suis toujours heureuse de parler de ça. Mais non, c'est juste que je me réjouis de voir comment ça va se passer cette première édition et je suis tellement reconnaissante que Genève est ouverte de nous accueillir. Donc, non.
Je suis émue de nouveau. Vous avez parlé de votre petite fille de 2 ans et demi.
Oui.
Elle chante déjà.
Elle chante déjà. Elle adore Pierre et Leloup. Elle réclame ça tous les soirs. Ou Lactécine. Bah, j'ai un peu influencé un petit peu, mais depuis qu'elle est...
Sorry.
Non. Depuis qu'elle est bébé...
Elle entend le chant.
Elle entend ça, même en gestion. Alors, elle est en
gestation.
Gestation, elle écoutait ça. Et je ne souhaite pas forcément. J'ai aucune avis sur son avenir. Elle fait ce qu'elle veut avec sa vie. Mais je suis contente qu'au moins qu'elle est sensible à ça. Parce que.
Il y a aussi l'oreille. Bonjour, Amélia Feuilleur.
Ah, bonjour.
Vous êtes là, à la Maison des Arts de Rovetli, à côté du Victoria Hall. On va en parler plus tard. C'est pour parler d'un festival dont vous avez eu l'idée. Vous êtes à la fois cantatrice et aussi la co-directrice de ce festival, la co-fondatrice. C'est un festival consacré aux musiciennes, aux compositrices oubliées. D'ailleurs, le Victoria Hall, il y a des noms de compositeurs, de musiciens, aucun nom de femme. Donc, c'était réparer une injustice.
Oui, exactement. Nous, on veut mettre en avant les compositrices du passé, mais aussi les compositrices d'aujourd'hui, pour que ça n'arrive plus dans notre génération, déjà. Et effectivement, on a la chance de commencer notre festival avec un mapping, où on projette les noms des compositrices sur le Victoria Hall, où, donc, pour l'instant, il n'y a que des hommes.
Je précise juste que le mapping, c'est Sophie Lemayour qu'on a déjà rencontrée. Ce sera le 13 septembre. Et elle nous a expliqué comment elle avait pensé ce travail avec vous.
Exactement. Donc, en fait, à la base, c'est drôle. Je suis venue à la ville de Genève, spécifiquement l'agenda 21, qui est en charge de l'égalité dans la ville. Mmh. Et j'avais l'idée qu'on pourrait peut-être graver dans la pierre les noms des compositrices sur le Victoria Hall. Ils ont trouvé ça mignon. Je pense qu'on est...
Mais pas possible.
Peut-être si je travaille sur ça toute ma vie, à la fin de ma vie, je pourrais voir ça. Peut-être.
Vos enfants, vos petits-enfants, voilà, votre petite fille peut-être.
Mais après, ils sont revenus vers moi et ils ont dit pour la journée européenne de patrimoine et matrimoine, peut-être on peut au moins commencer par projeter les noms des compositrices sur le Victoria Hall. Et à la base, c'était censé juste être une simple projection. Mais je me suis mis en contact avec Sophie Lemayour et les synergie entre artistes a commencé à développer et maintenant on a un vrai spectacle à offrir pour le 13. Et en fait, ce spectacle commence avec une phrase qui était dite par Clara Schumann qui dit « Pourquoi j'aurais prétendre d'être capable de composer parce qu'aucune femme avant moi l'avait fait ?» Sauf qu'elle avait tort parce que plein de femmes ont composé avant elle, dont la première, Hildegard von Bingen, qui disait...
qui faisait d'autres choses d'ailleurs aussi.
Plein de choses, cette femme était incroyable.
Herboriste.
Oh my god, oui, médecine, voilà, écrivaine, elle faisait tout. Et du coup, ce qui est expliqué dans le livre de Aliette Delalleux, qui travaille à France Musique.
Qui sera présente.
Pas pour le mapping, mais peut-être dans d'autres moments du festival, parce qu'elle est marraine du festival. Et ce qu'elle explique dans son livre, Si Mozart était une femme, c'est que systématiquement, chaque fois qu'il y avait une compositrice qui existait et d'un coup, elle a décidé, elle n'était plus en train de travailler, on avait le chic de assez rapidement effacer son travail. Parce que souvent la famille ne soutenait pas son nom et son travail après son décès, ou les maisons d'édition ne voulaient pas continuer de publier ses œuvres, plein de raisons différentes. Et ça faisait sorte que quand tu as une nouvelle génération de compositrices, ils n'ont pas des modèles.
Ouais. Des modèles. Mais aussi, en effaçant, Amélia vous dit, en effaçant l'œuvre, on efface la personne.
Mais absolument, absolument. Et oui, les deux vont ensemble. Et on voit pas ça sûrement dans la musique, mais dans l'art, les peintres. Des écrivaines et tout, donc c'est un peu un problème partout. Hein.
À propos de musique, puisqu'il y aura ce mapping de Sophie Lemieux, il y a la musique de votre complice, Frank Hauser.
Oui, Céline Frank Hauser, on avait vraiment la chance de tomber sur elle. En fait, on avait un projet parce que ce festival à la base existait aussi à Paris, et on avait la chance de faire une résidence l'été dernier. Et le projet dans cette résidence, c'était de créer de la musique pour les films d'Alice Guy, qui était une réalisatrice aussi oubliée, effacée, qui était juste la première personne, laisse tomber la première femme, d'avoir l'idée que le cinéma pourrait être le septième art, et pas juste une manière d'observer la vie, mais de vraiment créer une histoire et des personnages. Et c'était elle qui avait donné le premier directive même aux acteurs. Elle disait à des acteurs, sois naturel, be natural. Et du coup, c'était la première fois qu'on avait dit, peut-être un acteur n'est pas juste fait pour la scène, mais il y a une autre manière de faire ça.
La précurseuse des studio acting.
Oui, exactement, exactement. C'est ça. Et donc, du coup, on avait ce projet avec aussi en lien avec la Cinémathèque française qu'une compositrice d'aujourd'hui revisite les films d'Alice Guy et compose la musique pour ces films. Et donc, du coup, on a tombé sur Céline Fancasser, qui est originaire de Berne. Et,
qui fait des musiques de films.
Qui fait des musiques de films, qui elle a tellement de talent, elle n'a même pas 30 ans encore. Et elle avait adoré l'opportunité aussi d'aller en France, de faire un échange de culture entre la Suisse et la France. Et du coup, elle a fait ce musique pour nous. Et donc, du coup, elle a aussi généreusement donné de son temps et son énergie pour faire la musique pour ce mapping.
Alors, Amélia, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Elle a tout juste 30 ans. Sophie Lemieux aussi, vous êtes trentenaire. C'est un bon cru cette année, cette génération.
Oui, je ne sais pas. Je suis grandie dans une époque encore où on disait à des femmes qu'on pourrait tout faire, sauf que ce n'était pas une époque où on avait vraiment le droit de tout faire. Et je pense que, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a mise un peu en colère que je voyais que le monde n'était pas encore juste, même si on m'avait donné l'idée que c'était le cas. Et donc, du coup, sans être révolutionnaire non plus, mais je pense chacun dans notre manière, nous les femmes trentenaires, on essaie de dans une manière positive changer les choses. Donc voilà, oui, c'est maintenant ou jamais. Et maintenant j'ai une petite fille, elle a 2 ans et demi.
Congratulations.
Merci. Et je veux pas qu'elle grandisse dans le monde dont j'ai grandi. Je veux qu'elle a pour du vrai des opportunités et des modèles, des femmes qui sont bienveillantes vers les autres femmes.
On pense aux féministes des 70s, des années 70, qui ont beaucoup obtenu, qui se sont battues pour l'obtenir.
Bien sûr. Oh, mais bien sûr.
Déjà, il y a des acquis, mais il n'y a pas que les acquis, il y a encore beaucoup à faire.
C'est ça. Et je pense qu'on vit avec une génération au-dessous de nous où il y a encore beaucoup de hommes en pouvoir. Et il faut juste qu'on attend que ça passe à la prochaine génération, gentiment.
Justement, c'est peut-être pour ça que toutes ces compositrices, ces musiciennes sont passées aux oubliettes à travers l'histoire. C'était le patriarcat dominant.
Mais bien sûr, et si on voit dans les maisons d'opéra aujourd'hui, pour la plupart, c'est encore des hommes d'un certain âge qui font la programmation, qui décident. voilà, qui va être écouté. En même temps, je comprends qu'eux ne veulent pas forcément prendre des risques parce qu'il faut mettre des gens, il faut vendre des places. Et j'imagine même pas ce que c'est, la pression d'avoir cette responsabilité. Et du coup, pourquoi les inoubliables existent, c'est d'être dans la médiation et créer un engouement pour ce musique, pour qu'après des grandes maisons d'opéra peuvent voir que nous on remplit des salles et du coup et peut aussi commencer à proposer un même genre de programmation.
Qu'il y a des attentes du public qui est au rendez-vous.
Voilà, c'est ça. Mmh. On va voir.
Alors, les Inoubliables, ça va se dérouler du 1er au 16 octobre.
19 maintenant. On a une dernière date qui vient d'ajouter, donc ça vient d'être mise dans le programme.
Voilà. Donc c'est en bonne voie. Vous obtenez toujours un peu plus. C'est en bonne voie pour inscrire les noms. Vraiment les graver dans le mur. À mon avis, ça va aboutir ce projet.
J'espère vraiment. En tous les cas, on fait ça dans une manière inclusive, bienveillante. Et on espère juste amener plus de beauté dans le monde et donner plus de chance pour celui qui commence maintenant à composer et donner enfin une chance à des compositrices du passé de rayonner.
Et surtout de rendre hommage à ces femmes qui ont fait des œuvres magnifiques, composées ou qui les ont chantées, et qui n'ont pas été retenues par la postérité.
C'est ça. Et je pense que ce qu'il faut qu'on mette dans nos têtes, c'est qu'il y a assez de place pour tout le monde. Que Mozart et Beethoven peuvent continuer à exister, même si Mel Bonis et Pauline Viardot aussi est beaucoup plus jouée qu'avant. Il y a la place pour tout le monde.
Et à propos de ces compositrices que vous mentionnez, vous avez un parcours, on connaît légèrement, il y a quelques points qu'on connaît sur Internet, mais pas grand-chose. J'ai vu quand même que vous avez chanté déjà l'opéra, que vous vouliez rendre accessible à tout le monde, dans les rues de New York, pendant vos études. Is it true?
C'était dans les rues de Genève, en fait, dans les rues basses.
It was not Big Apple.
Non, peut-être un petit peu, mais en fait, j'ai vraiment commencé à chanter dans la rue à Genève quand j'ai fait mon master's à la Haute École de Musique. Parce que ce qui est vraiment chouette à Genève, c'est que tout le monde a le droit de faire de la musique dans les rues basses. Il faut juste demander un petit permis et c'est partie de la culture de cette ville. Et donc, du coup, j'ai fait ça un peu pour le fun au début. Et après, j'ai rendu compte qu'aussi, ça rémunérait très bien. Par la suite, j'étais sur une émission, La Puce à l'Oreille, qui
existait,
RTS. J'étais aussi dans les tribunes de Genève à l'époque. Du coup, c'était une bonne expérience parce que ça m'a permis de comprendre que la musique classique, que le chant, ça touche plein du monde. Juste parce qu'ils n'achètent pas des billets pour une maison d'opéra, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas écouter ça. Et j'ai fait aussi plein de beaux rencontres. Par exemple, j'ai rencontré Seal, le chanteur Seal.
Et notre chanteur Stéphane Eicher.
Stéphane Eicher, voilà. Et plein de personnes comme ça. Donc, je trouve ça vraiment chouette que vraiment, les musiciens sont là, on est là pour échanger. On n'est pas juste là pour rester dans nos coins.
Et puis, la démarche d'aller vers le public, un public qui n'est pas forcément... forcément concerné, qui ne sait pas s'il aime ce genre, c'est aussi d'aller vers ce public et peut-être susciter de nouvelles passions chez certaines personnes.
Oui, ou même juste rendre la journée un petit peu mieux. En fait, ce que j'aime de chanter dans la rue, c'est que tu imposes rien. Si les gens veulent écouter, ils écoutent, s'ils ne veulent pas, ils partent. Et c'est pas grave. Et il y a plein de belles surprises.
Et à propos du site Amelia Feuer, on voit que vous faites partie du trio Lucia. Vous pouvez nous en parler?
Oui, en fait, j'ai aussi créé deux ensembles, le duo Circe, avec moi et un pianiste, Clémentine Dubost. Et nous, on va jouer le 12 septembre, juste avant le mapping sur Victoria Hall, dans une conférence à Palais Inard, autour de les journées européennes de matrimoine patrimoine, mais dans ce cas, c'est
matrimoine,
parce que c'est vraiment cette conférence autour de la matrimoine de la ville de Genève. Et on va aussi jouer à la fin du festival le 19. Et le trio Lucia, on va jouer à juillet le 16 à la bibliothèque de Genève.
Bibliothèque de la cité?
Pas bibliothèque de la cité, la bibliothèque de Genève. En fait, dans ce bâtiment, au 12e étage, quoi. Au premier étage.
Dans la maison des arts du Brutley.
Dans la bibliothèque.
Ah oui, dans la bibliothèque. Ouais.
Il fait 4 concerts par saison. Donc, on fait une coproduction avec eux. Et oui, ces deux ensembles sont chouettes parce que, évidemment, on met en avant les compositrices et on explore plein de répertoires. Et ça m'a permis, en tant qu'artiste, de faire mon travail, d'aller dans les archives, d'aller vers d'autres publics. Et pas juste être une simple, entre guillemets, programmatrice, mais vraiment être sur le terrain. Voilà.
Amélia, vous avez une formation de chant lyrique,
oui.
Dramatique plutôt.
Je suis surtout dramatique.
Yes, indeed. Et en même temps, là, vous, avec le duo, il me semble,
oui.
Vous allez dans les répertoires de jazz, du théâtre un petit peu des années 40 à 60.
Oui.
Comédie musicale aussi.
Avec Duo Circe, on a resté sur un répertoire pour l'instant qui entre les Allemands romantiques. On adore Alma Mahler, Clara Schumann. Après, on a joué beaucoup de Florence Price, qui était la première compositrice femme noire d'avoir sa musique jouée par un grand orchestre aux États-Unis dans les années 30. Et voilà, on est plutôt dans ce répertoire-là pour l'instant. On concentre sur les Allemands et les Américaines, je ne sais pas pourquoi. Et avec Trio Lucia, vu que c'est une formation de harpe, violoncelle et chant, c'est un peu différent à la base et on est obligé de réarranger toute la musique. Du coup, on a décidé d'explorer un peu de la jazz. Et du coup, on a une de nos compositrices phares, elle s'appelle Blossom Dearie. C'était une Américaine qui vivait à Paris dans les années 50 et 60 et elle a écrivé de la musique sublime qu'enfin on commence à rejouer. Mais ça devrait être à côté du même standard de jazz de Miles Davis et compagnie et ce n'est pas le cas. Donc on était vraiment contents d'explorer ce répertoire.
Et par rapport à ces compositrices comme celles que vous venez de mentionner, vous êtes allées dans les bibliothèques de musique. Comment vous les avez trouvées? Parce qu'elles étaient enfouies dans les oubliettes.
Oui, en fait, heureusement, il y avait des gens avant que moi j'ai commencé ce travail qui a déjà enregistré les œuvres. Souvent, c'était des amateurs et je trouvais ça intéressant qu'ils ont exploré ce répertoire. Mais nous, on a rendu compte qu'il fallait le professionnalisme un petit peu parce que même si les amateurs font ça avec tout leur cœur et c'est génial, des fois on a besoin juste après que ça soit reprise un peu plus proprement par des musiciens pros. Du coup, j'avais la chance de découvrir plein de choses par des gens passionnés. Et après, oui, c'est une question d'aller dans les archives, mais souvent, c'est de parler avec les bibliothécaires. Par exemple, à l'Otico de Musique, il y a la bibliothèque, et le directeur, c'est Monsieur Jack Chamcarton. Qui est venu, quand je suis venue vers lui pour demander qu'est-ce que c'était dans les archives, il avait dit, il y a la compositrice Fernande Perrault, qui est une compositrice genevoise, dont j'ai reçu toutes ses œuvres quand j'étais une jeune bibliothécaire au début des années 80. Et c'était à moi de l'archiver, ses œuvres. Et depuis, personne ne les a touchées. Est-ce que tu veux les voir? Et j'étais en mode, ouais! Et c'était tout sublime. Du coup, souvent, en fait, on a des gens qui sont déjà au courant de tout ce qui est là. Mais il faut juste poser des questions à les bonnes personnes.
Donc, pour ce festival, il y a aussi les bonnes rencontres.
J'ai la chance de vraiment, à Genève, tomber sur des personnes adorables. On a pu découvrir Fernand Perrault grâce à Monsieur Chamcarton, mais aussi par la suite, on voulait les rééditer parce que beaucoup de ses œuvres sont écrites sur du papier calque en manuscrit et il faut faire enfin une
digitalisée.
Éditer, c'est un vrai travail. Et du coup, on a rencontré une super maison d'édition, une jeune maison d'édition qui s'appelle Henri Labatia, portée par Grégoire May. Et lui, il est hyper content de travailler avec nous. On a tombé sur l'équipe de le musée d'art histoire qui soutient notre projet, l'équipe de Les Salons qui est juste à côté, qui porte le projet. Plein de personnes, il ne faut pas que j'oublie qui d'autre on est en train de travailler avec. Mais Bibliothèque de la Cité, la Bibliothèque de la Ville, vraiment, Agenda 21, on n'a que de engouement pour ce projet, ça nous touche.
Oui, donc ça suscite beaucoup de, à la fois stimulation, une symbiose comme ça, donc il y a un intérêt comme généralisé. Ce projet de festival est bienvenu, il était peut-être attendu aussi.
Peut-être. Il faut trouver l'équilibre entre respecter les institutions qui sont déjà là, qui savent faire bien leur travail, et de proposer quelque chose de nouveau.
en rentrant quand même dans les codes d'où on est, parce que je sais, j'ai un accent, je ne suis pas suisse à la base.
But you speak perfectly in French. Molière would be very proud.
Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais gommé mon accent. Mais du coup, je ne viens pas ici pour apprendre les choses à des personnes. C'est un échange. Voilà. En essayant de m'intégrer dans ce culture dont j'adore et ajouter une énergie qui existe déjà et qui est déjà très beau.
À propos d'accent, vous avez appris le français déjà aux États-Unis ou seulement à Paris?
Non, en fait, j'ai fait une Erasmus au CNSM de Paris quand j'avais 22 ans et j'ai rendu compte que je voulais rester en Europe. Bon, en France à l'époque, parce que à 22 ans, on voit le pain, le fromage, les hommes français.
La baguette. Ah, bah les hommes, voilà. C'est dit, hein.
Le vin. Ouais, c'est dit. Les hommes français sont. Hein, c'est difficile de les résister. Et du coup.
Les Suisses, c'est plus facile, hein.
Bah, je ne sais pas, en fait. Je voulais rester et par un hasard total, je me suis trouvée à Grenoble. Et à Grenoble, à l'époque, il fallait juste parler français et rapidement. Donc, j'avais la chance d'être dans une petite ville dans les Alpes.
Provinciale,
pour vraiment améliorer mon français. Et après ça, je suis allée à Genève pour mon master's. Donc, ça a un peu aidé.
Donc, vous n'avez pas pris l'accent de l'Isère. Et à propos d'accent, même si vous n'avez pas perdu le vôtre, rappelez-vous que Jane Birkin, même après 60 ans en France, elle forçait même son accent because it was very charming.
Oui, mais bon, elle était anglaise. Je suis américaine et j'essaie de cacher ça en ce moment. Donc, même si à New York, on n'est pas tout à fait des Américains.
Non, comme San Francisco, c'est voilà, différent. C'est je ne vous ai pas posé la question sur les États-Unis. Mm-hmm. Ça me démange, mais je ne le dis pas.
Oui, bah, de toute façon...
Pour les artistes,
c'est
compliqué.
Je peux même pas croire, j'arrive même pas à comprendre ce qui est en train de se passer et je pense que je suis juste très reconnaissante d'être en Europe. Et j'espère qu'en Europe, on va continuer on va pas évoluer comme les États-Unis.
Voilà, je suis pas sûre que ça soit une évolution, mais je pensais par exemple aux grandes universités qui sont muselées, qui sont bloquées par le gouvernement actuel. Je me demandais si c'était le cas pour les artistes. Est-ce que les artistes sont aussi bloqués? Est-ce qu'ils ont moins de soutien financier?
Je sais que les compagnies qui portent certains sujets qui vont contre le gouvernement actuel, ils ont perdu leur financement. Ça, je sais. Je n'ai pas des amis en particulier qui étaient touchés, mais j'ai aussi beaucoup moins des amis musiciens aux États-Unis parce qu'à la base, c'est beaucoup plus dur de faire ton art aux États-Unis que dans un pays, par exemple en France, il y a le statut d'intermittent du spectacle. Même en Suisse, il y a plein d'opportunités pour jouer.
En Italie, il y a toute une tradition.
Voilà. Et aux États-Unis, la plupart de mes amis, même qui réussissent à un haut niveau, de temps en temps, ils doivent travailler dans un restaurant. Du coup, j'ai vraiment la chance. Je touche du bois, je fais que mon art et je dirige les univers et je suis reconnaissante, très reconnaissante.
À propos d'art, j'ai lu sur votre site, à propos de, je crois que c'est du duo, il me semble, vous dites major to minor. Vous pouvez m'expliquer?
From major to minor.
Minor. Why?
Oui, c'est un petit duo que j'ai avec une copain pianiste. Bah, en fait, on est très...
Amen.
Armin. Et on est très fan de Cole Porter. Et il y a une chanson, Every Time We Say Goodbye. Et il y a une phrase là-dedans. But how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. Et du coup, on a trouvé ça beau, cette phrase. Du coup, notre duo, c'est from major to minor.
Rien qu'en vous entend chanter cet extrait, j'ai les frissons. On va finir l'interview avec un extrait plus important, je crois. Pour revenir au festival, donc le mapping, grâce à Sophie, le 13. Après, vous enchaînez fin du mois. Jusqu'au 19, maintenant, vous m'avez dit.
Oui.
Est-ce qu'il y a des personnes que vous voulez mentionner, que ce soit des compositrices qui sont remises à l'avant, ou est-ce que des invités qui vous sont chers? J'imagine
oui.
Tout le monde, mais...
Tout le monde est cher. On a vraiment la chance de travailler avec le grand pianiste David Kadouche, qui avait le chic de, depuis longtemps, mettre en avant les compositrices, même s'il n'avait pas forcément besoin de le faire, parce qu'il a une grande carrière toute seule, et la plupart des pianistes que j'avais approchés, qui... approchés, c'est pas le vrai mot, que j'avais abordé pour faire une
Moved.
Oh, non, mais la plupart des pianistes qu'on a abordés, qui sont des pianistes un peu stars, ils avaient dit à nous, pourquoi j'apprendrai une répertoire des compositrices, parce que je vais que le jouer pendant votre festival et après je vais jamais le rejouer, et le temps de monter un programme à ce niveau-là,
c'est beaucoup d'investissement.
Voilà. Ou David, il avait fait ça tout seul. Et du coup, il fait énormément de communication aussi sur les réseaux sociaux, sur les compositrices. Et je trouve le plus beau, c'est tellement beau pour moi de voir un allié, de voir un homme allié pour ce genre
de projet.
Ouais, et de quelqu'un qui est curieux, qui n'est pas une femme, par ce répertoire. Du coup, on a hâte de lui accueillir le premier week-end d'octobre au Musée d'Art Histoire. Et juste avant son concert, c'est génial, on a un mini concert des étudiants de l'Haute École de Musique qui va jouer la musique de Fernand Perrault. Et pour ouvrir ce concert, on invite l'architecte Fanny Noël qui vient de gagner le mandat pour refaire le Musée d'Art d'Histoire. Donc, pour montrer que les femmes dans plein des différents milieux, on s'entraide et on se soutient.
Les modes artistiques d'expression très différentes se croisent, se rencontrent.
C'est ça, et de voir que nous, les femmes, on est l'avenir.
Bah, disons que sans les femmes, il n'y avait pas déjà de passé. Hein.
Ça, c'est sûr.
Mais le patriarcat l'avait oublié.
Voilà.
Pour revenir aussi aux invités, vous avez parlé tout à l'heure de l'autrice de Si Mozart était une femme.
Ah, Aliette Delalleu.
Oui.
Oui, oui, oui. Du coup, elle va peut-être essayer de venir. Elle est très, très occupée avec, France Musique, mais elle va essayer de venir un petit peu. On a aussi le deuxième week-end, on va refaire le ciné-concert d'Alice Guy avec la musique de Simon Fankhauser au salon, du coup, plein centre de Genève. Et on va faire une petite conférence juste avant avec Coraline Refort, qui est la première femme qui a un doctorat sur Alice Guy en France, ou dans les pays francophones. Du coup, elle va venir un peu introduire qui est Alice Guy pour ceux qui sont intéressés de venir juste avant. On a aussi ce week-end-là Manon Moulineur, qui est une étoile grimpante en jazz en Suisse. On a un spectacle jeune public, auteur des compositrices, qui est très rare, qui était d'ailleurs partie d'une résidence chez Les Inoubliables. On a commandé ce spectacle jeune public. Donc non, il n'y a que des beaux spectacles et plein de spectacles qui varient, même si on concentre sur la musique classique et jazz, parce qu'on laisse les créatives faire leur partie aussi, on ne veut pas marcher sur le pied. On propose quand même des spectacles inédits, grand public.
Et la cadence du festival, puisque c'est la première édition, vous espérez pouvoir le réitérer chaque année?
Oui, on est en train de poser des questions de comment on va faire, si ça se fait chaque année pendant le mois d'octobre, si ça se fait un peu toute l'année, si on fait vraiment une saison. Là, la prochaine étape, on va faire une gala-concert en mars à Victoria Hall. Donc vraiment un grand concert avec un grand orchestre, avec plusieurs stars, mais je ne peux pas annoncer encore, mais ça va être assez incroyable. On pense aussi de faire une série de vidéos où chaque vidéo de 3 minutes, on met en avant soit une compositrice, soit de passé, soit de présent, et on fait une série de vidéos pour toucher un plus grand public. On veut aussi faire un week-end de jazz pur et dur, des compositrices de jazz. Donc, on est sur l'expérimentation pour l'instant, mais le but, c'est que Les Inoubliables restent toute l'année.
Cross fingers.
Yeah.
Wish you luck. Et quand vous parlez de pianiste, je pense aux Athénéennes,
ouais.
Où il y a des pianistes comme Jean-Marc Luzida qui pourraient être intéressés parce que lui, il est très ouvert.
Ouais.
Il avait fait, n'est-ce pas, un concert lié à tout ce qui était musique de film, ce qui était nourri par le cinéma. Et il est aussi sensible à la cause des femmes.
Bah, il faut absolument que je parle avec eux, mais j'adore l'équipe des Athénéennes. Je connais très bien Audrey, donc avec grand plaisir. Et c'est comme ça qu'on est plus fort, de s'entraide et de trouver des collaborations riches.
Et vous allez chanter durant les journées du matrimoine.
Oui, du coup, je vais chanter le 12 pendant cette conférence autour de matrimoine, de l'architecture à Genève.
Avec quel répertoire?
Du coup, on va chanter Alma Mahler et Clara Schumann. Après, je vais chanter avec mon trio, le trio Lucia, le 16 octobre à la Bibliothèque de Genève. Et pour clôturer le programme, je vais rechanter avec le duo Circe le 19 octobre à Roussin, qui est juste à côté de Genève.
Il y a des vins.
Oui.
Ils ne sont pas français, mais il y a des vins.
Il y a des vins et ça va être en fait, oui, un concert à la fin, on propose des vins. Et c'est avec une petite association qui s'appelle The Low Light Sessions qui fait plein de concerts chez des particuliers à Genève. Et ils voulaient absolument travailler avec nous, du coup ils ont ajouté cette date et on était très contents. Donc voilà. Si des gens veulent m'entendre, m'écouter, ça c'est mes dates.
Dans leur maison.
Oh, et je vais aussi chanter pendant le ciné-concert. Parce que le ciné-concert, c'est 30 minutes de musique d'orchestre et après 15 minutes de musique piano et chant. Voilà.
Amélia, en tout cas, c'est un programme vraiment intense et diversifié. On sait que si on veut venir vous faire chanter chez nous dans le grand château qu'on a à Colonie, vous pouvez venir. Voilà. Par contre, est-ce que vous étiez à Stockholm il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Vous avez sans doute des projets déjà en cours après le festival.
Oui, en fait, j'avais énormément de travail cet été. Ça se calme en novembre et décembre parce que j'avais ce festival et je voulais concentrer dessus. Mais oui, cet été, j'ai chanté dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel en Normandie. J'avais une série de concerts à Stockholm. Je vais énormément rechanter à Stockholm en novembre.
À l'Opéra de Stockholm.
Je ne sais pas. Non, c'est pas l'opéra, je ne me rappelais pas le nom du salle, mais on fait le Requiem de Verdi. Après, j'ai des concerts à Paris, je vais chanter le Requiem de Mozart en septembre. Et après, normalement, il y a plein de mes choses qui arrivent en 2026, mais rien n'est signé, du coup, je ne parle pas encore.
Non, non, non. Vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport au festival ou par rapport à votre parcours? Avant qu'on se quitte.
La pression.
Non, vous avez l'air toute zen.
Ah oui?
Ah oui, complètement feng shui. On ne voit pas le stress. Hein.
Et
vous êtes lumineuse, donc on ne voit pas du tout le travail qui a été fait en amont. On l'entend, mais on ne le voit pas.
Je suis toujours heureuse de parler de ça. Mais non, c'est juste que je me réjouis de voir comment ça va se passer, cette première édition. Et je suis tellement reconnaissante que Genève est ouverte de nous accueillir. Donc, non.
Je suis émue de nouveau. Vous avez parlé de votre petite fille de 2 ans et demi.
Oui.
Elle chante déjà.
Elle chante déjà. Elle adore Pierre Leloup. Elle réclame ça tous les soirs. Ou Lac des Cimes. Bah, je l'ai un peu influencée un petit peu, mais depuis qu'elle est...
Sorry.
Non. Depuis qu'elle est bébé...
Elle entend le chant.
Elle entend ça, même en gestion.
Non, elle est en gestation.
Gestation, elle écoutait ça. Et je ne souhaite pas forcément. J'ai aucune avis sur son avenir. Elle fait ce qu'elle veut avec sa vie. Mais je suis contente qu'au moins qu'elle est sensible à ça. Parce que.
Elle a aussi ça. L'oreille mélomane déjà.
C'est ça, exactement. Oui. Donc.
Bonjour à tous. C'est pas bien pour l'extrait,
mais
merci Amélia pour cet entretien.
Merci beaucoup.
You are going to sing something for us.
Right now.
You can choose whatever. Just tell us what it is,
please. Oh my gosh, mais la pression, j'ai même pas pensé qu'est-ce que je pourrais...
Mais tout à l'heure, vous avez chanté l'extrait sans problème.
Oui, mais bon, parce qu'on était dans... Parce que je me dis que je dois chanter quelque chose qu'on pourrait écouter pendant le programme. Je peux chanter...
Est-ce que vous chantez au Palena?
À Palena, oui, j'étais en train de penser et je pourrais faire un extrait de Clara Schumann, mais il faut juste que je réfléchisse 3 secondes au début. Et les... Attends.
Je précise pour les auditrices et les auditeurs, vous êtes toutes souriantes et toujours aussi détendues. C'est la journaliste qui tousse, mais vous êtes zen attitude.
Je chante juste fin et maintenant je peux. Est-ce que je fais le Blossom Diary? Pardon, j'ai une blank total.
maybe just pause it and just hear for 2 seconds the beginning.